RCF.
Au-delà des abus, RCF Alsace, Marie-Jo Thiel.
Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver cette semaine encore. Et je reçois, comme toutes ces dernières semaines, Jean-Georges Romer, qui est médecin, praticien hospitalier, psychiatre au CHU de Strasbourg, responsable du CRAFS Alsace, le centre ressources pour les auteurs de violences sexuelles. Jean-Georges Romer, bonjour.
Bonjour.
Dans la suite de ces dernières semaines, nous allons évoquer aujourd'hui les questions qui émergent du secret professionnel et du silence. Le secret professionnel parce que on a vu que le code pénal impose le signalement quand on a été témoin d'un certain nombre de faits, de mauvais traitements, d'agressions, d'agressions sexuelles, etc., en particulier quand il s'agit de mineurs. Mais ce même code pénal dit que, attention, il y a des personnes dans notre société, des professions dans notre société qui sont parfois, dans certaines conditions, exempts, il faut gérer ça avec beaucoup de prudence, de ce signalement. Et c'est ainsi qu'on va parler du secret professionnel qui est très large et qui englobe non seulement celui de certaines professions comme les professions de santé, mais qui est aussi reconnu en vertu de l'état d'une personne, par exemple l'état clérical ou épiscopal. Et c'est un point crucial qui a été débattu en permanence tout au long de ces dernières décennies. Jusqu'où est-ce que on peut parler de secret professionnel? Est-ce que, et le public est de plus en plus enclin à cela, vous les auditeurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vous avez le droit effectivement de réagir, et en tout cas je crois qu'il nous faut en parler aujourd'hui pour réfléchir à cette question parce qu'elle est extrêmement difficile. Est-ce qu'il y a des cas où il faut vraiment lever ce secret? Est-ce qu'il faut signaler? Est-ce qu'on peut se contenter de dire « ah ben non, telle profession, même si finalement cet homme, cette femme entend des choses, on veut protéger la profession, sinon on ne fait plus confiance », parce que c'est l'argument que l'on défend le plus souvent. Jean-Georges Romer, comme professionnel de la santé, vous en pensez quoi?
Alors, la première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que pour penser et voire réfléchir autour de la notion de secret professionnel, il faut bien savoir que s'il en est beaucoup question dans la loi, à aucun moment le secret professionnel n'est défini. C'est-à-dire la loi ne dit pas ce qu'est le secret professionnel. Il n'est pas cerné. Notre code de déontologie nous dit, et c'est retenu également dans les codes de santé publique, que le secret, par exemple le secret médical, il est absolu. Absolu, sauf dans les cas prévus par la loi. Voilà. Alors, il y a tout un ensemble de cas prévus par la loi qui sont soit des cas répertoriés, soit des cas qui sont apparus par jurisprudence. Alors, par exemple, on sait, pour donner un exemple, que le secret professionnel, le secret médical, est opposable à l'administration fiscale. Voilà. Je donne le premier exemple, tout simplement par jurisprudence, l'administration fiscale ne peut pas aller, avoir communication d'un dossier médical comme elle aurait communication de vos extraits bancaires. Voilà, ça c'est une chose. Mais par exemple, ce secret professionnel n'est que partiel lorsqu'il y a communication d'une information Et ben prenons l'exemple à un médecin conseil, c'est-à-dire un médecin praticien des organismes de sécurité sociale. Le secret, il est également partiel dans le cas d'une déclaration de maladie obligatoire. C'est-à-dire que, évidemment, si vous avez la tuberculose, eh bien, le cas de tuberculose sera signalé aux autorités. Donc,
oui, vous voyez, on a un petit peu d'ailleurs cette discussion avec la COVID-19, avec les masques. Est-ce qu'il faut dire à tout le monde qu'on a le porteur de la COVID?
Oui.
Je veux dire, c'est... Voilà.
Voilà. Alors là, on se retrouve effectivement entre le secret personnel et la nécessité de santé publique.
Exactement.
Mais... J'allais dire, en ce qui concerne l'épidémie actuelle, je suis un peu perplexe par rapport au débat, puisque, mis à part son versant technologique, la déclaration de maladie obligatoire, elle existe depuis extrêmement longtemps concernant la maladie vénérienne, les maladies infectieuses, rougeole, diphtérie, tuberculose, etc., etc. Et il faut savoir également que le syndrome d'immunodéficience humaine, le VIH, est encore une maladie déclarée, simplement la déclaration est anonyme.
Au-delà des abus, RCF Alsace, Marie-Jo Thiel.
Oui, Jean-Georges Romère, je crois que le VIH, effectivement, c'est une sacrée question, hein, parce qu'à l'époque, aujourd'hui, un peu moins, mais ça a été à l'ordre du jour pendant des années. Enfin, à l'ordre du jour, à l'ordre des années, il faudrait dire. C'était une question extrêmement cruciale parce que finalement, quand le médecin savait que dans un couple, l'un était contaminé et que l'autre n'était pas au courant de la contamination du premier, c'était extrêmement problématique. Est-ce qu'il pouvait tolérer cela? Et beaucoup de médecins ont défendu « Ah, mais le secret professionnel !» on peut pas, sinon on trahit la confiance de l'autre et on n'aura de toute façon plus aucune information. Donc ça a été l'occasion d'un débat qui a été très long, très dur, très complexe.
Alors je crois qu'il n'est pas fini. Je crois qu'il non, il, vraiment
oui,
il,
oui.
Il,
non, mais
il,
c'est...
il est pas fini, mais il prouve au moins qu'il est apaisé. C'est-à-dire que les résonances parfaitement émotionnelles des choses sont retombées. Elles sont retombées parce que cette maladie, j'ose le dire, s'est banalisée au sens où elle a retrouvé un statut de maladie et elle a un peu quitté. Elle s'est débarrassée du statut de punition sacrilège qu'elle avait au départ. Donc, ça a permis de dédramatiser les débats. On ne peut pas dire que les progrès scientifiques n'y sont pas pour quelque chose, puisque finalement, la maladie s'est banalisée, quelquefois un peu trop, certes, j'en suis tout à fait conscient, mais elle s'est banalisée aussi parce qu'on a des traitements maintenant, qu'elle n'est plus, qu'on ne guérit pas. On ne guérit pas de ce qui était de ce qui est le sida, mais qu'on peut avoir, grâce à un traitement qui reste lourd, mais on peut mener une existence quasiment normale. Alors je dis quasiment parce que je veux pas faire insulte à des patients qui souffrent de cette maladie. Simplement, c'est moins dramatique que ce que j'ai connu dans les années 80.
Absolument.
Où les gens qui étaient hospitalisés ne sortaient plus
condamnation à mort, oui.
Et c'était le diagnostic était une condamnation à mort. Ce qui effectivement dramatise la situation. À l'heure actuelle, que provoque cette dédramatisation? C'est que même à l'intérieur d'un couple, je dis pas qu'une contamination va être ou la révélation d'une séropositivité va être quelque chose de banal. Je dis simplement que ça pourra une fois de plus se discuter dans le temps et se discuter avec un peu plus de sérénité que quand le pronostic vital était engagé par le diagnostic même. C'est quand même un élément qui va permettre, par exemple, à un médecin de dire à un sujet, écoutez, il faudrait que vous en parliez à vos partenaires. Ce qui évite la démarche radicale de dire, vite, pour une raison de vie ou de mort, il faut dans la journée que tout le monde soit au courant. C'est quand même quelque chose de différent. Et pour plein de personnes, ça leur permet, après cette phase de sidération, de dire « je suis séropositif de retrouver la parole, qui peut ne pas être au moment où on a le résultat du diagnostic, j'allais dire d'une certaine manière, médicalement, le mal est déjà fait. Si la personne n'était pas au courant, elle découvre une chose, il va falloir en parler. Mais quand je dis il va falloir, c'est quelque chose qui s'inscrit dans un futur proche et pas dans un impératif tout de suite.
Ceci étant, quand on est dans la question des abus,
oui.
Cette manière apaisée, elle est loin d'être à l'ordre du jour.
Bien sûr.
Parce qu'il y a ici des victimes. Et au fond, le médecin est aussi le principal, je dirais, porte-parole possible d'un enfant, par exemple, en cas d'inceste dans une famille, pour protéger cet enfant, pour le tirer hors d'affaire. Et donc, on ne peut pas juste se dire, voilà... On laisse faire, donc c'est extrêmement difficile.
Non. Mais je crois qu'il faut là établir quand même une distinction.
Oui,
tout à fait,
absolument.
Tout à fait nette, qui est une distinction en fait, non pas médicale, mais une distinction qui est d'abord pénale. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, un médecin a l'obligation de dénoncer tout crime ou délit en train de se commettre. Soyons clairs, en train de se commettre. Ce que le médecin doit garder pour lui, ce qui fait partie du secret médical, serait un crime ou un délit qui aurait été commis et qui est passé.
Oui, mais c'est pas si simple dans la réalité. Quand on sait que, par exemple, les abus durent des années... est-ce que quand la victime lui dit c'était hier, avant-hier, il y a 2 ans, etc., est-ce que la victime peut aller jusqu'au bout de son raisonnement, ou est-ce que finalement le médecin doit quand même se dire, ne pas se contenter en tout cas de se dire c'est du passé simplement, parce que c'est un passé qui dure avec les symptômes que nous avons évoqués la dernière fois dans le présent.
Oui, absolument. Mais
et puis la loi ne dit pas en train de se commettre.
Eh si, elle le dit en tant que telle. Elle le dit en tant que telle, c'est-à-dire que nous avons une liste impérative de choses où nous devons parler et d'autres choses où le signalement est possible. Mais ça n'est pas la même chose, et vous l'aviez déjà dit, pour le grand public que pour le médecin. C'est-à-dire que le médecin peut signaler, donc il peut lever le secret médical. Par exemple, lorsqu'il y a des sévices à enfants, lorsqu'il y a des... lorsque la personne est une personne vulnérable à tout point de vue. Vous avez
voilà,
cité...
Absolument. Alors l'article 226.13... dit que la loi impose ou autorise,
oui.
Donc on a les deux, la révélation du secret à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privation de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteinte ou de mutilation sexuelle dont il a eu connaissance. Donc c'est à la fois le passé et le présent. Je propose, Jean-Georges Romer, que nous continuions ce débat la semaine prochaine, parce que vraiment le jeu en vaut la chandelle. Il faut vraiment que nos auditeurs comprennent les enjeux de cette question qui est extrêmement difficile.
Silence imposé ou autorisé.
Oui. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.
Au revoir.